RTL Info.
Le journal Jean-Paul Picci.
Bonsoir. Les habitants de la Chaux-du-Milieu inquiets pour la sécurité de leurs enfants. Une pétition signée à plus de 1000 reprises demande davantage de places assises pour les écoliers du village dans les quarts postaux. Une vie en colocation pour gagner en autonomie, c'est le but d'un projet de la Fondation Suisse pour paraplégiques. Un Neuchâtelois fait partie des premiers participants. Après 4 ans de débats longs et parfois épiques, la loi sur le CO2 est enfin sous toit. Le texte introduit plusieurs taxes et mesures pour réduire de moitié les émissions de gaz à effet de serre. La pluie va revenir cette nuit. Demain, ça s'annonce gris, même si quelques éclaircies sont attendues le matin. Il fera plus frais avec au mieux 15 à 20 degrés. Bus bondés, écoliers en danger. Plus de 1000 personnes ont déjà signé une pétition qui demande une amélioration des transports publics à la Chaux-du-Milieu. Depuis la rentrée scolaire, les classes de 1er et 2e Armos ont été déplacées à la Brévine pour réaliser des économies. 11 élèves supplémentaires prennent donc le bus en direction du village voisin, en plus des écoliers qui habitent le long de la vallée. Mais selon plusieurs parents, il y aurait désormais beaucoup trop d'enfants qui s'entassent dans le car postal. Ceux-ci craignent pour l'intégrité physique des plus petits. C'est pourquoi un texte a été lancé, les explications d'une pétitionnaire, Émilie Belleréguer.
Je dirais qu'avant de lancer la pétition, nous avons sonné à plusieurs portes. Le secteur scolaire, la commune de la Chaux-du-Milieu, les autorités cantonales, que ce soit service des transports, service de l'éducation. Et tout le monde nous dit que finalement, c'est légal. Car postal, par une loi fédérale, a le droit de transporter jusqu'à 80 personnes dans un car. Tout le monde se renvoie la balle, donc on s'est dit qu'il faut qu'on trouve une autre solution pour manifester notre mécontentement et faire bouger les choses. Donc nous avons créé une pétition. On aimerait une solution avec un deuxième bus, qui soit un bus de transport scolaire cette fois, qui transporte les plus petits en priorité et que les plus grands puissent rester dans le bus de ligne, car on sait aussi que pour conserver les lignes car postales dans la vallée de la Brévine, on a besoin que les bus soient pleins. Donc cette solution, à notre sens, contenterait tout le monde. Cette solution, elle a un problème, c'est le problème financier, parce que payer un bus scolaire, c'est très très cher. La commune de la Chaux-du-Milieu n'a absolument pas les moyens d'entrer en matière pour cet investissement. Et cette pétition, on va l'adresser à Berne, parce que la loi qui régit ce problème-là, finalement, est fédérale. Donc on va l'adresser à Berne pour que les choses soient prises en compte. On va également l'adresser à Carpostal et surtout au canton et au cercle scolaire du Locle, en leur demandant de trouver une solution.
Des propos recueillis par Yann Esler. De son côté, Carpostal nous a transmis que l'entreprise comprenait les inquiétudes des pétitionnaires. L'entreprise avance que des discussions sont en cours avec les communes de la vallée pour trouver des solutions, mais que légalement, les enfants ne sont pas tenus d'être assis. Toutefois, la mise en place de transports spéciaux pour les petits-enfants serait possible, mais onéreux. Le nombre de frontaliers français dans l'arc jurassien a augmenté de 13 000 en 10 ans. La quasi-totalité d'entre eux, soit 97%, utilisent leur véhicule pour se rendre sur leur lieu de travail. La forte croissance du nombre de frontaliers associée à un usage de la voiture entraîne un trafic routier très important aux heures de pointe, en particulier à proximité de la frontière. Ainsi, plus de 5 000 frontaliers transitent chaque jour sur certains tronçons, à l'image du col des Roches ou de l'axe entre Pontarlier et Valorbe. C'est ce qu'a relevé l'Observatoire statistique transfrontalier de l'arc jurassien dans une étude publiée aujourd'hui. Un Neuchâtelois s'installe dans la première paracologue de Suisse. Ce projet de la Fondation Suisse pour paraplégiques permet aux blessés de la moelle épinière de partager un appartement. Les deux premiers logements de ce type ont été inaugurés vendredi passé à Schenkon, près de Lucerne. Antoine Baridzi, originaire de Chézard-Saint-Martin, fait partie des premiers résidents. Les précisions de David Sanchez.
La vie en colocation entre paralysés médulaires pouvait sembler une chimère jusqu'à maintenant. Eh bien, ce n'est plus le cas avec le projet Paracoloc. La Fondation Suisse pour paraplégiques espère offrir aux résidents une transition vers l'autonomie. Elle met donc à disposition de ces jeunes qui ont entre 17 et 27 ans un logement adapté à leurs besoins et une équipe de professionnels pour les soutenir. On écoute Guillaume Roux de la Fondation Suisse pour paraplégiques.
Alors, il y a plusieurs spécialistes différents. Les deux principaux, on va dire, sont ceux de deux filiales de la Fondation Suisse pour paraplégiques qui sont Parahelp. Parahelp, il s'agit de soins à domicile. et de para-work. Para-work, là, il s'agit de la réinsertion professionnelle dans la société. Donc, ce sont finalement des soins médicaux, d'une part, mais aussi des soins de l'ordre du coaching, de l'assistance sociale, on pourrait dire, sans aucun côté péjoratif. Donc, ce sont ces deux types principaux de prestations auxquelles ils peuvent faire appel. Bien sûr, la colocation est couverte au niveau urgence ou besoin de santé urgent. Donc, tous les spécialistes de notre ville sont aussi à disposition en cas de pépin.
Parmi les premiers participants à ce projet, il y a un Neuchâtelois, Antoine Barizi, 27 ans, tétraplégique depuis ses 16 ans. Il espère pouvoir bénéficier de ce soutien, notamment pour gagner en liberté.
Mon but principal, c'est de pouvoir devenir autonome le soir, car c'est là où il y a plus de difficultés d'avoir de l'aide à domicile le soir. Et c'est ce qui me permettrait de gagner le plus d'autonomie et de liberté dans mes sorties, notamment. Si j'ai plus besoin de quelqu'un le soir pour aller me mettre au lit et pouvoir me mettre en sécurité pour dormir toute la nuit, c'est un grand gain de liberté et d'autonomie pour moi, car j'ai moins de pression d'horaire, car les soins à domicile viennent jusqu'à telle heure et donc je dois rentrer jusqu'à une heure fixe. Ça me permettrait, avec ce but d'être autonome le soir, ça me permettrait justement de gagner en liberté. Et donc on travaille des séquences en vue d'améliorer cette autonomie.
Le projet comptait initialement sur un appartement dédié, mais au vu de son succès et du nombre de candidats, un deuxième logement a été rapidement mis en place. Un troisième appartement devrait être proposé ces prochains mois.
Une bouffée d'oxygène pour Zoé for Life. Le prix Adèle Dudweiler a été remis hier à l'association qui vient en aide aux familles d'enfants atteints d'un cancer. Un don de 100 000 francs, plus que bienvenu pour l'association qui traverse une année difficile. Nathalie Guignard est présidente de Zoé for Life.
Ça tombait à pic parce que je crois que le matin même ou le jour d'avant, je venais de dire à la présidente que cette année allait être une année très compliquée pour notre association. La pandémie s'est invitée et c'est vrai qu'on a subi aussi les conséquences. C'est vrai que le cancer de l'enfant, il ne s'arrête pas et c'est vrai que les dons sont plus difficiles à récolter cette année, tous les événements étant annulés. On savait que cette année allait être très compliquée pour notre association. Donc c'est vrai que ce prix a encore plus de valeur cette année, je pense.
Un prix doté de 100 000 francs que l'association prévoit d'investir dans la recherche pour des traitements innovants. L'avion électrique prend son envol. La première édition du Raid électropostal est partie aujourd'hui de l'aéroport de la Blecherette à Lausanne. Le périple durera 4 jours avec plusieurs étapes. Destination finale, le sud de la France. Les précisions du Neuchâtelois Raphaël Donjean, explorateur, pilote et président de la fondation Planète Solaire.
C'est le départ de deux avions électriques. On est sur les traces de l'aéropostale. 100 ans plus tard, l'aéropostale, ça a débuté en 1919. On reprend cette route mythique un peu de ces pionniers de l'aviation. Objectif, partir de Lausanne et rejoindre la Méditerranée, donc Marseille après Aix-en-Provence, avec ces premiers avions électriques certifiés que tout le monde peut acquérir, où les pilotes vont pouvoir se former, sans bruit, sans émission de CO2. Et on peut emmener des passagers avec nous. Là, on va partir avec un journaliste qui va pouvoir vivre cette expérience. Ça, par contre, c'est vraiment, on va dire, des premières.
L'avion électrique nommé Pipistrel est donc le premier de la sorte certifié par l'Agence européenne de la sécurité aérienne. Son autonomie est encore limitée, comme l'explique Hervé Berardi, cofondateur de l'électropostale.
Cet avion-là est conçu pour rester autour d'un aérodrome. Il est conçu pour voler 50 minutes à peu près autour d'un aérodrome. Et nous, on veut l'utiliser pour se déplacer d'un point A à un point B pour montrer que l'aviation électrique pour se déplacer est aujourd'hui possible. Le défi est important parce qu'on a 50 minutes d'autonomie sur l'avion avec 20% de réserve. Donc, on doit, en fonction de la météo, c'est un avion qui est très sensible au vent. Vous comprenez qu'avec 50 minutes de vol, si on a un fort vent de face, c'est pénalisant. Bien évidemment, on a des plans B et des plans C en cas de problème en route, pouvoir se poser quelque part. Mais en termes de logistique, il faut pouvoir recharger les avions à chaque fois, donc c'est quand même assez lourd en termes de logistique, et donc on est obligé de prévoir des trajectoires.
Des propos recueillis par notre confrère de LFM, Émilien Verdon. Et parmi les 6 pilotes qui participeront à ce périple long de quelques 400 km, notons que pour la dernière étape de samedi, l'aéronaute suisse Bertrand Piccard sera de la partie.
Élection. Ce qu'il faut savoir sur les communes du canton.
On poursuit notre tour du canton. Le 25 octobre, la population neuchâteloise élit ses autorités communales. Cap aujourd'hui sur un village de 450 habitants situé à l'extrême ouest du canton, la Côte-aux-Fées. Stéphanie Wenker nous explique que cette année encore, un seul groupe est à la tête de la commune.
C'est l'entente communale qui est en place à la Côte-aux-Fées, un groupe qui permet d'avoir plus de débats et plus d'avis exprimés selon le président de commune Laurent Piaget. Ce dernier se représente d'ailleurs pour siéger à l'exécutif, tout comme ses quatre collègues sortants, Cosette Pétrement, Adrien Prospero, Nathanaël Albert et Willy Gerber. Avec 22 personnes sur la liste au Conseil général pour 11 places, l'entente propose une liste relativement fournie en comparaison avec d'autres petites communes. Selon son président, l'intérêt de la population est stable pour la politique et les jeunes n'hésitent pas à se lancer. Seul bémol, 2 femmes seulement sont sur la liste, une déception pour Laurent Piaget qui a tenté de convaincre d'autres citoyennes de s'engager. À noter encore qu'Yvan Perrin fait partie des candidats, là où il a démarré sa carrière politique il y a une vingtaine d'années. Lors de la prochaine législature, il faudra remettre à jour le plan d'aménagement local et se concentrer sur le pompage d'eau potable avec la station des Combes. Des études sont actuellement en cours. Le nombre d'élèves de l'école du village sera aussi surveillé. Quant à une éventuelle fusion avec Val-de-Travers, l'idée n'est pas au programme. Tant que les finances vont bien et que la population est investie, elle n'est pas une priorité selon le président de la commune de la Côte-aux-Fées.
Cette présentation ainsi que celle des autres communes du canton de Neuchâtel sont à retrouver dans notre dossier spécial sur rtn.ch. Après 4 ans de débats intenses influencés par les élections et les manifestations dans la rue, une majorité de 3-1 au Parlement fédéral accouche d'un texte majeur, la loi sur le CO2. Les dernières divergences ont été aplanées aujourd'hui. Il ne manque que le vote final prévu vendredi. La loi fixe 2 objectifs, la réduction de moitié des émissions de CO2 en 2030 et la neutralité climatique en 2050. L'adoption de cette loi a été rendue possible par le changement de cap opéré par le PLR l'an passé. Son conseiller aux États lucernois, Damian Muller, est ainsi apparu comme un fervent défenseur du climat.
On a vraiment trouvé des solutions qui plaisent pour tout le monde, pour tous les partis, et on fait vraiment le premier pas pour pousser aussi le but pour 2050 d'avoir une loi et une paye avec une netto nul.
C'est aussi une loi économique.
Absolument, parce que ça pousse aussi l'économique avec l'innovation et bien sûr avec des bâtiments qui ont un vraiment potentiel en Suisse pour rénover. Je crois vraiment maintenant des peuples veulent soutenir aussi cette loi.
Seuls l'UDC et 2 PLR et PDC sont au final contre la loi sur le CO2. Pour l'UDC, le bilan de 4 ans de débat est rude. Aucune de ses propositions n'a été acceptée. Elle lancera le référendum, le Conseil national fribourgeois Pierre-André Page.
Là, on a perdu sur toute la ligne, je dois reconnaître. Et c'est pour ça que je me réjouis qu'on puisse lancer ce référendum afin d'aller devant le peuple pour savoir si vraiment la population acceptera de se faire taxer d'une pareille façon après ce que l'économie vit. Avec la pandémie qu'on a actuellement, l'économie est à genoux et on vient qu'une couche de taxes droit derrière, donc pour lui mettre les 2 genoux à terre, et ça on ne peut pas l'accepter. Alors on est tous d'accord qu'on doit protéger le climat, même de notre côté, on prend des mesures, mais au niveau des entreprises, chaque entreprise le fait spontanément, sans avoir un fouet derrière pour nous donner des taxes.
Un dossier de notre correspondant à Berne, Serge Jubin. On l'a compris, l'UDC s'opposera en particulier à 2 outils de la loi, la taxe sur les billets, des billets d'avion, et l'aviation, ainsi que la hausse de la taxe sur l'essence. La loi Covid-19 est sous toit. Après le national, le Conseil des États a accepté aujourd'hui à l'unanimité la proposition de la conférence de conciliation et s'est montré plus généreux que le gouvernement sur les aides financières. Le Parlement a décidé d'étendre le soutien fédéral, notamment aux indépendants, aux employeurs et aux entreprises en grande difficultés. Depuis le 13 mars, le Conseil fédéral a édicté des ordonnances pour surmonter la crise. Or, la loi est nécessaire pour que ces ordonnances ne deviennent pas caduques au bout de 6 mois. La loi vise principalement à prolonger des aides financières jusqu'au 21 décembre 2021. La Suisse enregistre 437 nouveaux cas de Covid-19 sur les dernières 24 heures. Selon les chiffres de l'Office fédéral de la santé publique, 15 nouveaux malades sont à l'hôpital, mais aucun décès supplémentaire n'est à déplorer. En Europe, plus de 5 millions de personnes ont été contaminées. La pandémie a fait près d'1 million de morts dans le monde depuis fin décembre. L'Union européenne veut en finir avec les dysfonctionnements de sa politique migratoire. Bruxelles a dévoilé aujourd'hui sa réforme de l'asile. Durcissement sur les renvois des migrants irréguliers, contrôle accru aux frontières extérieures, accélération des procédures figurent notamment dans ce nouveau pacte. Et on termine avec quelques mots de sport. Léonie Kung a passé le cap du premier tour des qualifications du tournoi de Roland-Garros. La joueuse de tennis chafouzoise a éliminé la Serbe Dalila Jakupovic 7-5, 6-3. En revanche, Victoria Golubic est d'ores et déjà éliminée après avoir perdu contre l'Ukrainienne Annelina Kalinina 6-1, 6-3. Michael Albasini sera le nouvel entraîneur de l'équipe de Suisse de cyclisme à partir du mois de janvier. Le Turgovien succédera à son père Marcelo. L'attaquant Kazuyoshi Miura est devenu à 53 ans, 6 mois et 28 jours, le plus vieux joueur titulaire en G-League, le championnat de football japonais. Il a débuté le match avec son équipe aujourd'hui. Kazuyoshi Miura entame sa 35e saison à ce niveau. Parmi d'autres records, il était déjà le plus vieux buteur dans un match professionnel lorsqu'il avait marqué en 2017 à 50 ans. Très belle soirée.
Prenons encore quelques nouvelles de la météo.
La météo avec le parc aventure Neuchâtel à Chaumont et sa nouvelle attraction, le Monster Trampoline. 32 mètres carrés de toile suspendue dans les arbres.
Encore quelques rayons de soleil, il va falloir en profiter parce que ça risque d'être les derniers avant un petit bout de temps. Arrivé cette nuit, en fin de nuit, d'une première dégradation pluvieuse donnant lieu à quelques pluies qui vont se poursuivre encore demain matin, car oui, demain matin, temps partagé entre quelques éclaircies et déjà quelques averses. Mais le ciel va devenir de plus en plus gris au fil des heures et les averses seront de plus en plus fréquentes. Température demain maximum 20 degrés au pied du massif, 16 dans les montagnes neuchâteloises. Et puis arrivée dans la nuit de jeudi à vendredi d'une nouvelle dégradation pluvieuse et d'un front froid. Par conséquent, la suite de la semaine et le week-end sera plutôt pluvieux et relativement frais. Pas plus de 13 degrés au pied du massif, voire 10 en pleine samedi. 6 à 8 dans les montagnes neuchâteloises.
La météo avec le parc aventure Neuchâtel à Chaumont, ouvert jusqu'à fin octobre 2020.